France Inter.
France Inter, il est 13h. Voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Le lourd bilan des inondations dans le Gard. 4 morts désormais, toujours 2 disparus. De gros moyens de recherche déployés ce matin. Et des questions sur le respect des consignes de sécurité ce week-end. Nous sommes sur place. C'est un changement historique qui s'annonce dans la loi française. Emmanuel Macron veut une aide à mourir pour les personnes en fin de vie. Comment les partis politiques accueillent-ils ce texte? Qu'y aura-t-il dans le plan de développement des soins palliatifs? Nous verrons cela. À suivre encore les mots de Gabriel Attal ce matin. Cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme à Arras.
C'est la victoire de l'école qui sonnera le glas de tous les obscurantismes, de l'obscurantisme islamiste qui veut mettre à bas notre école pour ses valeurs. Nous lutterons et nous vaincrons.
Nous serons en direct du Pas-de-Calais. Direction le Portugal également dans quelques minutes. Bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
On tentera avec vous d'expliquer la poussée de l'extrême droite hier lors des élections législatives.
Oui, Chega, parti anti-système, a fait campagne sur le thème de la corruption. Grand nettoyage, sortez les socialistes impliqués dans des affaires. Et puis l'extrême droite utilise politiquement l'immigration. Et ça, c'est assez nouveau quand même au Portugal.
A tout de suite, Julie. Les excuses de la princesse Kate au Royaume-Uni pour avoir diffusé hier une photo de famille retouchée. Pourquoi les Jeux de Paris subissent-ils tant de critiques ces derniers jours? Ce sera notre rendez-vous, les Jeux avant les Jeux, avec Nathalie Yanetta dans une vingtaine de minutes. À 13h30, c'est l'un des cancers les plus difficiles à détecter, le cancer du pancréas. Près de 16 000 nouveaux cas par an. Soirée de solidarité ce soir à l'Olympia à Paris. On en parle avec nos invités et avec vous. 01 45 24 7000. Questions et témoignages. 13h45, notre feuilleton dans une maison d'édition. Comment sélectionne-t-elle les manuscrits qu'on leur envoie?
C'est un peu comme si on ouvrait une bouteille de vin. Dès la première page, on sent qu'il se passe quelque chose. Parfois, un sujet vous prend à la gorge. On sent les parfums qui apparaissent comme ça.
Certaines en reçoivent plus de 2000 par an. 13h50, c'est la France. Ces villes du sud où l'on prie pour qu'il pleuve, où l'on prie pour qu'il arrête de pleuvoir. Ce sera avec Thomas Negaroff. Et puis juste avant 14h, toute cette semaine, carte blanche à Olivia Ruiz, qui mêle chanson et littérature. Aujourd'hui, Serge Gainsbourg et Annie Ernaux. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Peu de dégâts matériels, mais un très lourd bilan humain. En Ardèche et surtout dans le Gard, après le passage de la tempête Monica ce week-end. Un homme toujours porté disparu en Ardèche. Le responsable d'une centrale hydroélectrique parti contrôler son installation. Et puis dans le Gard, déjà 4 morts, les corps de 3 personnes retrouvées hier et ce matin, celui d'un père de famille qui avait tenté de traverser un pont avec 2 enfants samedi soir sur le Gardon. Bonjour Boris Loumagne.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes sur place pour Inter. Boris, les recherches ont repris ce matin. D'importants moyens sont mobilisés.
Oui, les secours qui étaient mobilisés aux 4 coins du département ce week-end se sont pour la plupart redéployés dans le secteur de Dionce, à la recherche donc de ces 2 enfants de 4 et 13 ans. Sur le terrain, 110 sapeurs-pompiers, une centaine de gendarmes, des drones, des hélicoptères, une brigade cynophile, des moyens très importants donc. Alors depuis ce matin, la décrue est bien engagée, l'eau descend rapidement, ce qui facilite le travail des secours qui ratissent toujours les berges du Gardon sur une vingtaine de kilomètres en aval du pont de Dionce. Là où le véhicule de la famille avait été emporté samedi soir.
4 morts, 2 disparus, je le disais Boris, ce bilan interroge notamment sur le respect des consignes de sécurité.
Oui, alors selon la préfecture, il y a eu probablement des comportements individuels qui n'étaient pas adaptés, mais l'erreur humaine n'est pas le seul facteur pour expliquer ce bilan humain. Tout d'abord, la question de la signalisation des routes se pose. À Goudargues, 2 femmes ont été retrouvées mortes après que leur véhicule a été emporté. À 5h10 du matin hier, quand elles ont appelé les pompiers, il n'y avait pas de signalisation pour indiquer que la route était impraticable. Le panneau n'a été installé qu'une heure après, vers 6h. Et puis à Dionce, autre question, celle du barriérage. Peu avant minuit, la famille dont nous parlions précédemment a emprunté un pont submersible, un pont qui possède des barrières à l'entrée et à la sortie. Problème, ces barrières, alors même que le pont était submergé, étaient ouvertes. Elles n'ont été fermées qu'après l'appel d'urgence de la mère de famille. Dans le Gard, il y a une 60aine de ponts submersibles, ces ponts très bas, sans parapet. La question de leur dangerosité est posée d'après la préfecture qui indique qu'une réflexion devra être menée prochainement pour renforcer la sécurité de ce type de construction. Enfin, Jérôme, ici dans le Gard, on se rappelle qu'en 2014, lors d'un épisode de crue, une famille avait trouvé la mort en tentant de franchir un de ces ponts submersibles.
Merci Boris Loumagne pour ces informations en direct de Nîmes dans le Gard avec les moyens techniques d'Hélène Langlois. 5 départements sont toujours en vigilance orange crue aujourd'hui. Charente-Maritime, Gironde, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques et le département de Lyon. Météo complète dans 25 minutes. Et maintenant, place au débat politique. Ce sera dans 2 mois et demi à l'Assemblée nationale. Débutera l'examen du projet de loi sur la fin de vie à partir du 27 mai. Il n'y aura pas de procédure accélérée, promet le chef de l'État, qui veut un débat, dit-il, apaisé dans l'hémicycle. Rien n'est moins sûr. Emmanuel Macron qui détaille donc aujourd'hui dans 2 journaux, La Croix et Libération, ses choix. Il propose la création d'une aide à mourir. Tout patient majeur capable de discernement et au pronostic vital engagé à court ou moyen terme pourra la demander, ce sera ensuite à une équipe médicale de donner son accord. Et si elle s'y oppose, le patient pourra déposer un recours. Alors évidemment, beaucoup de questions se posent encore après ces annonces. On va tenter d'y répondre avec Alice Cachaner du service Sciences, Santé, Environnement d'Inter. Bonjour Alice.
Bonjour, bonjour à tous.
On va parler des soins palliatifs. C'est l'autre annonce de cette interview présidentielle. Avec nous également Marie Mollet. Bonjour Marie.
Bonjour.
Service politique d'Inter. On verra s'il peut exister une majorité pour voter ce texte. Avant cela, voyons comment réagissent ceux qui, depuis des années, accompagnent des proches qui veulent en finir avec la vie et avec les souffrances à l'étranger, car ils ne peuvent le faire en France. C'est le cas de Pascal Lemignan. Il a accompagné son compagnon Guy, atteint de la maladie de Charcot, pour mourir en Belgique. Il accueille avec soulagement, mais également un peu d'amertume, les propositions du chef de l'État.
Enfin, la porte est entrouverte, on va pouvoir faire en sorte que ça bouge. Enfin, parce que la Convention citoyenne qu'il avait promis et qu'il a faite avait donné ses conclusions depuis déjà un bon nombre de mois. Et il y a eu quand même pas mal de dates annoncées, de reports, etc. Donc, il admet avoir pris le temps, mais c'est vrai qu'on est déçu qu'il ait pris beaucoup, beaucoup de temps et qu'il a été à l'écoute de beaucoup de lobbies qui ont ralenti ces décisions. Puis cette décision qui est tardive, qui sera en application que pratiquement dans un an, ça laisse encore beaucoup de malades partir et dans le désarroi. Donc, oui, c'est long.
Témoignage recueilli par Ajra Mohamed. Alors Emmanuel Macron a fini par trancher une question qu'il avait refusé d'envisager lors de son premier quinquennat. Et parmi les élus qui l'ont poussé à légiférer, le député MoDem ex-socialiste de Charente-Maritime, Olivier Falorni. C'est le texte qu'il attendait.
Ça fait 12 ans que je suis député, ça fait 12 ans que je suis engagé sur cette question. Je l'ai fait en rencontrant 2 présidents de la République et de nombreux ministres. Oui, c'est un travail de conviction. Alors, vous savez, ce travail de conviction, je le mène toujours avec beaucoup d'humilité, parce que c'est un sujet complexe. Mais c'est vrai que ça a été pour moi un moment important hier de lire les mots du président de la République, parce qu'ils correspondaient aussi en grande partie à ce que j'ai essayé de défendre auprès de lui, une vision équilibrée de l'accompagnement de la fin de vie, une vision qui fait que on doit développer les soins palliatifs, on doit renforcer les droits des patients, mais on doit aussi permettre un ultime recours qui s'appelle et qui s'appellera, je l'espère, demain dans la loi, l'aide à mourir.
Olivier Falorni au téléphone de Claire Flochel. Marie Mollet, je reviens vers vous. On entend le soutien de ce député à cette idée d'introduire l'aide à mourir dans la loi. Est-ce qu'il faut s'attendre, à partir de la fin mai, à des débats houleux à l'Assemblée ?
Eh bien non, pas forcément, à en croire les députés des différents groupes que nous avons contactés, car personne n'a intérêt à salir le débat et à verser dans l'outrance, comme le prédit un élu Renaissance. Ce ne sera pas le pugilat du mariage pour tous, qui, souvenez-vous, avait embrasé l'Assemblée en 2013. D'ailleurs, depuis hier, les réactions de l'opposition sont rares, extrêmement prudentes, y compris à droite, qui voit dans cette loi une diversion, un piège tendu par Emmanuel Macron avant l'élection européenne. Nous ne nous prêterons pas à cette manœuvre, prévient le député LR Pierre-Henri Dumont.
Nous ne faisons pas de surenchère, nous ne sommes pas là pour rentrer dans ce jeu malsain qui est le jeu du président de la République, qui cherche à désigner ceux qui seraient les bons élèves et qui seraient forcément en faveur de l'adoption de cette loi sur la fin de vie et ceux qui seraient d'affreux réacs contre l'adoption de cette loi. C'est beaucoup plus intime, beaucoup plus puissant, beaucoup plus profond que tout ça. Chacun se fera sa propre opinion.
Et il est vrai, hein, difficile de s'opposer brutalement à une réforme qui emporte l'adhésion d'une écrasante majorité de Français, autour de 70% selon les sondages.
Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir des clivages au sein même des partis ?
Absolument, car dans tous les partis à l'Assemblée, la liberté de vote sera la règle, y compris chez LR ou au Rassemblement National. Personne ne peut traiter ce sujet avec des certitudes, nous dit-on dans l'état-major RN. En revanche, il y aura bien sûr un travail parlementaire au fond, avec des amendements, la gauche qui pourrait pousser pour assouplir les conditions d'accès à l'aide active à mourir. Par exemple sur la collégialité. Un débat qui se fera sur le temps long, 18 mois, et une loi qui ne sera pas effective avant 2026, d'après l'entourage de la présidente de l'Assemblée.
Merci Marie Mollet. Alors au-delà de cette évolution de la loi sur la fin de vie, Emmanuel Macron fait donc une autre annonce. Elle est un peu éclipsée, mais elle est très importante. C'est ce plan sur 10 ans pour les soins palliatifs, donc pour atténuer les souffrances des patients en fin de vie. Alice Cachaner, je reviens vers vous. 1 milliard d'euros en plus.
Oui, ce plan est censé lever les réserves des soignants, mais eh bien, eux, ils estiment qu'une enveloppe supplémentaire d'un milliard d'euros sur 10 ans, c'est conséquent, mais pas suffisant pour améliorer l'offre de soins palliatifs. Le chantier est colossal, l'ambition est d'atténuer les inégalités, doter chaque territoire d'une unité de soins palliatifs. Aujourd'hui, 21 départements sont dépourvus. Autre mission, former les professionnels concernés dans les établissements de santé, les hôpitaux, mais aussi les EHPAD, la médecine de ville. Il faut aussi développer les unités mobiles, l'accompagnement à domicile, améliorer la prise en charge des enfants en fin de vie, et puis créer ce que le gouvernement appelle des maisons d'accompagnement, des structures territoriales à mi-chemin entre l'hôpital et le domicile, pour ces patients dont les traitements palliatifs sont stabilisés, mais qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Enfin, il faut rendre ce secteur plus attractif. Faute de bras, des services ferment encore aujourd'hui leurs portes, comme dernièrement à Oudan, dans les Yvelines. Autant de projets ambitieux pour lesquels 1 milliard d'euros ne suffira pas, estime la SFAP, la Société française de soins palliatifs, qui rappelle ce chiffre glaçant. Chaque jour, près d'un patient sur deux meurt sans bénéficier d'une prise en charge adaptée.
Merci Alice Cachaner. Au-delà des réserves des soignants dont vous parlez, opposition aussi de l'Église de France. Sans surprise, une telle loi, quoi qu'on veuille, infléchira tout notre système de santé vers la mort comme solution, estime Éric de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France. Vous retrouvez un dossier complet sur ce projet de loi sur franceinter.fr. Emmanuel Macron, qui ne présidait pas ce matin l'hommage aux victimes du terrorisme, c'est le Premier ministre Gabriel Attal qui était présent à Arras, la ville du professeur Dominique Bernard, tué le 13 octobre dernier devant son établissement par un ancien élève, élève fiché pour radicalisation islamiste. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous avez suivi cette cérémonie organisée hors de Paris pour la première fois et dans un contexte de menace toujours très forte sur les professeurs.
Oui, avec ce constat aussi glaçant que cette matinée pluvieuse sur les pavés de la citadelle, il était mis par une ancienne collègue de Samuel Paty.
C'est acté. Nous, professeurs, sommes des cibles. Parce que professeurs. Désormais, il nous faut vivre avec, travailler avec.
Et Gabriel Attal ne dit pas autre chose sous les yeux de Marine Le Pen, assise au premier rang.
Les terroristes détestent l'école. C'est normal. L'école est la meilleure arme pour les combattre. Cette journée d'hommage, c'est avant tout et se doit avant tout être une journée de combat. Combat pour notre éducation et contre l'endoctrinement de la jeunesse.
Un combat qui passe par le devoir de mémoire. Je ne peux quitter mon ami sans verser de larmes, entonne la maîtrise populaire de l'opéra comique qui précède Yanis, 14 ans, élève de 3e à Conflans-Sainte-Honorine.
Nous faisions, nous faisons et nous ferons perdurer le souvenir de Monsieur Paty, de Dominique Bernard et de toutes les victimes de la violence aveugle du terrorisme.
La douleur est toujours là. Un ami de Dominique Bernard, Philippe Lourdel, a encore du mal à entrer dans le lycée Gambetta.
C'est sûr que le perron, on le regarde d'une autre façon. Comme l'a dit Monsieur le Premier ministre, il n'est pas question d'oublier, tourner la page. C'est très difficile. 4 ans après, j'ai rencontré la collègue de Samuel Paty. Elle me fait encore part de son énorme difficulté.
Difficultés immenses aussi des orphelins de l'attentat de Nice qui rejoignent le Premier ministre à l'issue de la cérémonie.
Maxence Lambrecq en direct d'Arras avec les moyens techniques de Raymond Albouy. Journée d'hommage européenne aux victimes en ce 11 mars, 20 ans jour pour jour après l'attentat djihadiste contre la gare d'Atocha à Madrid. 192 morts. La cérémonie d'hommage en Espagne a débuté peu après midi dans un musée de Madrid, présidée cette cérémonie par le roi et par la reine. Dans la Drôme, 4 mois après la mort du jeune Thomas, tué à l'issue d'une fête de village à Crépol, l'enquête se poursuit pour savoir qui a donné le coup de couteau mortel. Et ce matin, une dizaine de personnes ont été interpellées, Nathalie Dequeyser, autour de Romans-sur-Isère, toujours dans la Drôme.
Les 11 interpellés sont en majorité des Romanais. Beaucoup habitent au quartier de la Monnaie, mais pas seulement. Un des gardés à vue vit dans une commune proche de Romans. Sur ces 11 personnes, il y a 10 majeurs et un mineur. Toutes sont de nationalité française, la plupart connues pour des délits mineurs. Les deux juges d'instruction de Valence qui ont décidé de ce coup de filet veulent éclaircir le rôle de ces jeunes lors du bal d'automne à Crépol le 18 novembre dernier. Leur nom, leur surnom ou leur description physique ont parfois été donnés par les 104 témoins entendus dans les premiers jours de l'enquête. Dans ce dossier, 9 jeunes de 16 à 22 ans sont déjà mis en examen pour meurtre en bande organisée et 6 sont en détention provisoire. Dans cette affaire, l'auteur du coup de couteau mortel n'a toujours pas été clairement identifié et l'arme du crime reste introuvable.
Précision France Bleu, Drôme Ardèche. Des incidents ce matin devant l'hôtel de la région Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux à l'issue d'un rassemblement d'agriculteurs à l'appel de la coordination rurale. Plusieurs dizaines d'entre eux ont déversé du fumier et il y a eu des incidents avec les forces de l'ordre.
France Inter, le 13-14... Jérôme Cadet.
À 3 mois des élections européennes, le Rassemblement national continue de caracoler dans les sondages français et fait office de grandissime favori. Le RN encore renforcé dans son optimisme par le scrutin au Portugal hier. Alors il ne s'agissait pas des européennes évidemment, mais des législatives. C'est le parti centre-droit Alliance démocratique qui devance le Parti socialiste au pouvoir depuis 8 ans. Mais derrière, le parti d'extrême droite Chega, proche du RN, double son score avec 18% des suffrages. Julie Pietri, vous êtes en direct d'Aveiro, près de Porto. Alors la lutte contre la corruption, Julie, a été centrale dans cette campagne, mais pour la première fois dans le pays, le thème de l'immigration, lui aussi, a pesé.
Ah oui, il y a, c'est vrai, au Portugal, du mécontentement, salaire trop bas, prix des logements inabordables. Alors sa colère, Marco, militaire, la dirige contre les immigrés.
On laisse entrer les migrants n'importe comment. Ils payent 800 euros pour une maison, mais ils sont 10 ou 15 à l'intérieur. C'est impossible pour une famille de 3 personnes.
Ce thème de l'immigration, il n'était pas présent dans le débat portugais il y a encore quelques années. Et d'ailleurs, ce n'est toujours pas un sujet de préoccupation centrale. Mais Chega est en train de le faire monter. Carlos Jalali est politologue à l'Université d'Aveiro.
C'est la première fois qu'on voit un parti qui a un discours plus anti-immigration. Ça a forcé les autres partis à parler aussi de l'immigration. C'est le cas du parti de centre-droite. Le Portugal est surtout un pays d'émigration, pas d'immigration. Le Portugal a eu une immigration très tardive. Ça a commencé il y a 5, 6, 7 ans. Ça pose des défis et Chega veut politiser ces défis.
Au Portugal, les Brésiliens représentent 40% des étrangers. Marlène est arrivée il y a 1 an. C'est accueillant ici, dit-elle. Je me sens vraiment chez moi. Elle aime sa vie au Portugal, donc même si le processus de régularisation est long, encore 1 an ou 2 peut-être à attendre, elle espère que la percée de Chega ne va pas compliquer sa vie à l'avenir.
Julie Pietri en direct du Portugal avec les moyens techniques de Johanna Gabric. Merci à toutes les deux. Les Britanniques, et pas seulement eux, se passionnent depuis hier pour une photo. La première depuis l'opération de leur princesse, la princesse Kate. C'était il y a 2 mois. Elle a été prise cette photo à l'occasion de la fête des mères au Royaume-Uni hier. On y voit la princesse souriante, assise sur une chaise, sur une terrasse et entourée de ses 3 enfants. Mais les agences de presse à laquelle la photo a été envoyée ont décidé de la dépublier. Leur explication, le cliché avait été modifié. Écoutez les explications d'Éric Barada, c'est le directeur photo de l'une de ces agences, l'agence France Presse.
Il est apparu hier après-midi qu'il y avait eu des manipulations sur l'image d'ordre un peu bizarre, en fait assez mal faite. On parle de surimpression, de collage, décollage, de masquage, plus tout autour du visage, sur les vêtements, et qu'il était trop évident que cette photo avait été altérée pour qu'on puisse continuer à la diffuser. On s'est concerté avec les autres grandes agences de presse à Londres qui ont toutes fait le même constat. Et tout le monde s'est dit, ouais, on peut pas laisser circuler des images comme ça. Il en va de la réputation et de la confiance qu'on fait dans nos services d'images et des diffusions de nos photos, quoi. C'est vrai qu'on a l'habitude que les photos de célébrités puissent être retouchées. On n'est pas naïf. On sait très bien que dans les images officielles, et c'est historique, il y a de la retouche. Mais comme ça et aussi grossièrement, c'est pas possible, quoi. Si ça avait été des images qui avaient été produites par des journalistes de l'AFP, on serait dans la sanction pour faute grave. On a une charte d'éthique et de standards professionnels qui font que ce genre de manipulations sont absolument interdites.
Le directeur photo de l'AFP au téléphone d'Alexandra Akoun, et ce matin, la princesse Kate a donc présenté ses excuses. Elle dit avoir modifié elle-même cette photo, comme beaucoup de photographes amateurs, précise-t-elle. Je m'essaie parfois à l'édition. Fin de citation. Ça fonctionne en Allemagne, pourquoi pas en France? En septembre dernier, Emmanuel Macron demandait au ministre des Transports, à l'époque Clément Beaune, de travailler à la création d'un pass rail, un abonnement, une cinquantaine d'euros par mois, pour accéder sans limite aux bus, métros, trains locaux et régionaux, le tout en partenariat avec ces régions. Eh bien, ce pass ne verra pas le jour. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
En tout cas, pas sous cette forme.
Effectivement, le pass à 49 euros pour tous toute l'année s'est transformé en un pass pour les moins de 27 ans durant l'été. Après les annonces fracassantes de l'ancien ministre des Transports, Clément Beaune, censé faire préférer le train aux Français, eh bien, c'est le dur retour à la réalité financière, car l'addition était décidément trop salée pour permettre aux voyageurs de prendre TER et Intercité à volonté, jusqu'à 3 milliards d'euros par an si on incluait les transports métropolitains dans les grandes villes. Les régions étaient montées au créneau, car ce sont à elles de financer les lignes TER. Patrice Vergriete avait à l'époque fustigé les bonnes idées avec l'argent des autres. Eh bien, devenu ministre des Transports, il vient donc d'annoncer un sérieux coup de frein sur ce passe-rail. Un recul qui sonne comme un soulagement pour les élus locaux, mais que regrettent amèrement les associations de voyageurs et les défenseurs de l'environnement. Un gouvernement peut-être échaudé aussi par l'expérience allemande. Le succès du pass a entraîné outre-Rhin une surfréquentation des lignes et de gros problèmes de circulation.
Agnès Soubiran pour ses précisions. Plusieurs rues de Bordeaux inondées ce matin. Avant-goût des grandes marées qui ont fait gonfler la Garonne, coefficient de 114 aujourd'hui. En Gironde, ce sera 116, plus au nord, mais toujours sur la côte atlantique. À l'île Tudy, nous sommes dans le sud du Finistère, une commune éprouvée ces derniers mois par les tempêtes et le risque d'érosion et d'inondation. Salomé Pineda est de plus en plus présent.
Dans sa maison face à la mer, Dominique le sait, un jour, elle risque littéralement de vivre les pieds dans l'eau.
Tout sera inondé en bas. J'ai un petit chalet en bas et ça, je le sais, depuis longtemps.
Elle s'est pourtant battue pendant des années pour alerter la commune sur les risques d'érosion.
Tout le monde était d'accord pour faire l'enrochement. Et ça a traîné. Et entre-temps, il y a eu des marées.
Mais bon, à 82 ans...
J'ai dit à mes enfants, je serai ça jusqu'au bout de toute façon. J'ai inconsciente, je m'en fous.
Sur l'île Tudy, ce sont plus de 400 habitations comme celle de Dominique qui se trouvent dans des zones risque.
Oui, c'est ça, parce que historiquement, on a pu construire sur des secteurs sensibles.
Guillaume Esteva-Carmel, chargé de mission submersion à la communauté de communes du pays Bigoudin Sud.
Et aujourd'hui, on se retrouve à devoir gérer ces zones, on va dire, vulnérables. Entre Céline et Caran, on a renforcé donc le cordon dunaire ici.
De quoi tenir pour les marées à venir, mais de gros travaux de protection sont prévus dans le cadre du dispositif PAPI.
Oui, alors c'est un programme d'action prévention inondation. C'est des programmes à l'échelle nationale. Nous, sur le pays Bigoudin, on a un budget prévisionnel, un reste à charge de 8,9 à 9 millions d'euros pour les travaux qu'on souhaite réaliser.
Il s'agira d'une digue à l'entrée de l'île pour ceinturer la plage et protéger les habitations. Le chantier devrait s'étaler sur les 6 prochaines années.
En reportage France Bleu Brésil, comme tous les lundis dans ce 13-14, notre rendez-vous avec les Jeux Olympiques, ça s'appelle les Jeux avant les Jeux. Bonjour Nathalie Yanetta.
Bonjour Jérôme.
L'affiche, la cérémonie d'ouverture, la scène, les transports, j'en passe et des meilleurs. En ce moment, les Jeux, c'est un jour, une polémique, ça râle donc et ça vous agace, Nathalie.
Alors, c'est pas tant la râlerie qui m'agace, mais les biais qui y conduisent. Il y a un article du Guardian, par exemple, qui a attiré mon attention cette semaine. Son titre, JO à Paris, deux points, ouvrez les guillemets, c'est comme si le Covid recommençait. Allons bon, mais quel rapport entre les Jeux et le Covid? Alors, en fait, aucun, si ce n'est une jeune fille qui prononce cette phrase, parce qu'on nous encourage à télétravailler, comme pendant le Covid, donc, ok. Mais au-delà de cette affirmation, ce que narre le correspondant du Guardian est très intéressant, parce que c'est un condensé des exaspérations diverses que provoque cet événement. Il cite l'inquiétude sur la sécurité, les migrants déplacés, les milliards dépensés. Et face à ce ressenti parisien, c'est le journaliste britannique lui-même qui rappelle l'audace de faire une cérémonie hors stade, l'impact carbone divisé par deux par rapport aux autres éditions, et puis l'intérêt des Français quand même. Sur 8 millions de billets vendus, 3 millions ont été achetés par des Français et la moitié par des Parisiens et des Franciliens. En fait, cet article, eh bien, il met en relief ce que nous, journalistes français, renvoyons de cet événement, c'est-à-dire les côtés négatifs et les polémiques incessantes. Vous l'avez dit. Il parle même, je cite, d'une télévision de droite qui en boucle s'offusque de l'absence de croix et de drapeau français sur l'affiche officielle et de la sollicitation d'Aya Nakamura pour participer au show musical.
Bon, parmi ces critiques, Nathalie, il y en a quand même qui sont fondées, si on prend l'exemple des logements, des étudiants, de la cérémonie d'ouverture.
Alors oui et non. On va prendre les étudiants, si vous voulez. S'il s'agit de virer les jeunes de leur chambre pour monnayer ce parc public à des touristes qui viendraient assister au jeu, alors là, oui, en effet, ce serait scandaleux. Mais est-ce que c'est toujours aussi scandaleux si on emprunte ces logements pour y loger des bénévoles et des forces de l'ordre qui viennent de la France entière pour sécuriser les jeux? Beaucoup moins, n'est-ce pas? Sur la promesse populaire, revenons-y à cette cérémonie d'ouverture. La réserver à des invitations alors qu'on nous avait vendu des billets gratos accessibles à tous, c'est une honte en effet. Oui, sauf qu'en réalité, Jérôme, cette histoire de billets accessibles à tous, c'était premier arrivé, premier servi sur une plateforme. Or, on sait qu'à ce jeu-là, les publics les plus éloignés ne sont jamais ceux qui gagnent. Alors que là, avec ces fameuses invitations, elles vont permettre aux maires, notamment du 93, de bénéficier de milliers, on parle de milliers de places, et de les réserver aux jeunes, aux vieux, aux clubs, aux bénévoles, aux scolaires, et j'en passe. Et c'est ça la garantie d'un public populaire dans les tribunes le jour de l'événement.
Je vous imagine bien en avocate des jeux, Nathalie, après ce plaidoyer.
Alors non, sûrement pas. Et je vais vous dire un truc, même si j'étais l'avocate, moi je sais que mon client, il n'est pas innocent. Et pas seulement à cause des prix des tickets de métro ou des chambres. Maintenant, c'est aux politiques de se taire et de s'unir au lieu de faire le buzz sur le dos des jeux. Et puis, c'est aussi aux organisateurs d'accélérer, notamment sur la visibilité de l'événement. Enfin, c'est quand même pas possible qu'à J-170, on ne voit rien en arrivant à Roissy, à Orly, dans les gares. Cet événement, il est là, il aura lieu. Alors, c'est pas la peine de chuchoter et de baisser la tête en donnant le sentiment de s'excuser. Il ne sera réussi que si les Français sont embarqués. Les gens ont raison de râler, surtout qu'on est incapable de leur donner tort.
C'est dit, merci Nathalie Anetta, directrice des sports de Radio France. Puisqu'on cherche des personnalités, c'est ça Nathalie, personnalités connues à l'étranger pour la cérémonie d'ouverture, j'ai cru comprendre ça. En voilà une, la réalisatrice Justine Trier, récompensée d'un Oscar, là c'est la célébrité mondiale. C'était la nuit dernière à Los Angeles, prix du meilleur scénario pour son film Anatomie d'une chute, prix qu'elle partage avec son compagnon Arthur Harari. Justine Trier, très critique vis-à-vis de la politique d'Emmanuel Macron, c'était il y a un an à Cannes, mais elle a été félicitée ce matin par le chef de l'État. On va aller à Los Angeles retrouver Alexis Demeyer. Bonjour Alexis.
Bonjour Jérôme.
Vous avez suivi cette cérémonie. Je voudrais qu'on revienne sur le destin américain de ce film. Alors succès critique, salué par les professionnels la nuit dernière, succès populaire aussi.
Oui, ici on ne compte pas en entrée mais en recette au box-office. Eh bien, Anatomie d'une chute a rapporté depuis sa sortie en octobre dans 500 salles américaines plus de 5 millions de dollars, c'est-à-dire presque l'équivalent du budget total du film. Et c'est beaucoup mieux par exemple que Les Trois Mousquetaires ou Astérix. Vous savez Jérôme, je suis allé constater de mes propres yeux cet engouement pour Anatomy of a Fall vendredi après-midi, multiplex de Beverly Hills, 60 personnes dans la salle, des jeunes, des vieux, un public ultra concentré et sous le choc à la sortie, impressionné par la puissance de cette œuvre. Il y a bien sûr aussi derrière ce succès l'impressionnant travail du distributeur américain Neon qui a su événementialiser la sortie de ce film, puis faire régulièrement des piqûres de rappel médiatique, un défi qu'ils avaient déjà relevé avec le film coréen Parasite, énorme succès aux États-Unis et notamment après son triomphe aux Oscars, puisque les recettes au box-office avaient alors été multipliées par 3 par rapport à la semaine avant la cérémonie. On a hâte de savoir si ce phénomène va se reproduire pour notre champion Made in France.
Merci Alexis Demeyer en direct de Los Angeles. Et puis une première la nuit dernière dans cette cérémonie, un Oscar pour l'Ukraine attribué à 20 jours à Mariupol, un documentaire sur le siège de cette ville ukrainienne. C'était au printemps 2022 par l'armée russe, documentaire produit par des journalistes ukrainiens. 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à 13h30, nous parlons du cancer du pancréas, l'un des plus difficiles à diagnostiquer. Un concert de solidarité a lieu ce soir. On parle aussi des avancées pour la recherche. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, notre feuilleton dans une maison d'édition. Que deviennent les milliers de manuscrits envoyés chaque année? C'est avec Ilana Moriousseff. 13h50, c'est la France. Bonjour Thomas Snegaroff.
Bonjour Jérôme.
Thomas, une histoire de l'eau avec vous aujourd'hui.
Oui, il y a une procession organisée à Perpignan. On a prié pour le retour de la pluie. Je vous raconte cette vieille et grande histoire.
On prie aussi pour que la pluie s'arrête. Vous Absolument. Allez nous raconter ça, Thomas. Et puis juste avant 14h, toute cette semaine, carte blanche à Olivia Ruiz. Aujourd'hui, le mariage d'Annie Ernaux et de Serge Gainsbourg. A tout de suite.
Le brief créatif.
Imaginez la nouvelle campagne de communication de l'association Aide pour engager la nouvelle génération dans la lutte contre le VIH.
Ça s'adresse à qui?
Tout le monde est invité à participer et c'est gratuit.
Qu'est-ce qu'on gagne?
La gloire de voir sa campagne diffusée pour de vrai et aussi 15 000 euros à partager avec l'ensemble des gagnants.
On s'inscrit où?
Brief et inscription jusqu'au 28 mars sur le site des Mademoiselle Peach Awards. Mademoiselle-peach-awards.com.
Un concours ouvert à tous, soutenu par Radio France Publicité et Média Transport.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est un ciel d'averse.
Oui, un temps instable quasiment partout avec une alternance d'éclaircies plus ou moins belles, des nuages, des averses. On a toujours une vigilance orange crue en cours, hein, soyez prudents. Sur le sud-ouest et sur l'ouest du massif central, les averses sont nombreuses, parfois orageuses et accompagnées de grésil et de vent. Des averses parfois orageuses également attendues sur la Corse, mais aussi vers la vallée du Rhône, la Provence, la Côte d'Azur. La tramontane souffle jusqu'à 90 km à l'heure. Sur les massifs du sud, c'est de la neige vers 1200 mètres. Attention toujours au risque d'avalanche élevé, surtout sur l'ouest des Pyrénées et sur le massif central. Et puis au nord de la Seine, là, c'est très encombré, parfois pluvieux, et ce temps progresse vers la région parisienne au fil des heures. Les températures, elles sont un petit peu timides pour la saison, 10 à 14 degrés, jusqu'à 14 à 17 en Méditerranée. Demain, on aura quelques degrés de plus, mais beaucoup de nuages, des pluies circuleront sur les régions du nord. Vous aurez du soleil sur le sud-est.
Elodie Calac, merci à vous. Météo France.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Près de 16 000 nouveaux cas de cancer du pancréas diagnostiqués l'an dernier en France. C'est un chiffre en hausse pour un cancer qui est l'un des plus mortels, car il peut rester longtemps sans symptômes. De nombreux patients sont donc diagnostiqués assez tard, ce qui complique le traitement, mais la recherche progresse, on va en parler. Et pour soutenir cette recherche, un concert caritatif est organisé ce soir dans la salle de l'Olympia à Paris, concert baptisé Leur Voix pour l'espoir au profit de la fondation Arcade, aide et recherche en cancérologie digestive. Deux invités avec nous pour en parler. Le professeur Pascal Hamel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes oncologue, chef du service d'oncologie digestive et médicale de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, département du Val-de-Marne. Vous êtes spécialiste des cancers digestifs. Avec nous également Solène Bénard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'une des patientes du professeur Hamel que vous connaissez bien. Vous avez 43 ans et vous avez dû affronter deux cancers du pancréas et un cancer du poumon. Vous allez nous parler de ce combat, comment vous l'avez abordé, comment vous l'avez mené et mené à bien également. J'attends pour vous deux les questions des auditeurs et des auditrices de France Inter. 01 45 24 7000, vous passez également par l'application France Inter. Professeur Hamel, d'abord un mot de définition. Qu'est-ce que le pancréas et à quoi est-ce qu'il nous sert ?
Alors le pancréas, c'est une petite glande qui est située derrière l'estomac, qu'on ne connaît pas bien hein, quand on n'est pas dans le milieu.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Voilà. Et qui a deux fonctions essentielles. La première, c'est de fabriquer des enzymes qui vont se déverser dans l'intestin. Les enzymes, ça permet de digérer nos aliments, en particulier les protides et les lipides, donc de préparer la digestion pour l'absorption des aliments. Et la deuxième fonction, elle est endocrine, c'est-à-dire que dans le pancréas, il y a des petites cellules qui sécrètent des hormones qui vont se déverser dans le sang et qui régulent le taux de sucre dans le sang, des hormones qui font monter le taux de sucre, le glucagon, et celles qui la font baisser, l'insuline.
Vous dites pancréas ?
Pancréas.
Pancréas, très bien. Donc c'est comme ça qu'il faut
Ah oui, pancréas ou pancréas ? Pancréas.
Ah, pancréas.
Comme on veut.
Comme on veut. Bon, j'ai dit 16 000 nouveaux cas diagnostiqués l'an dernier. Il y a 10 ans, on était à 10 000 nouveaux cas. Comment est-ce qu'on explique une telle hausse ?
Alors attention quand même à l'augmentation des chiffres, ouais. Il y a également un meilleur diagnostic des cas. Hein. Il n'y a pas qu'une augmentation massive du nombre de cas, il y a une vraie augmentation, c'est un cancer qui augmente.
Vous diriez qu'il y a les deux phénomènes ?
Il y a les deux phénomènes, exactement. Pour ce qui est des causes du cancer du pancréas, bon, certaines sont très bien connues, le tabagisme, l'obésité, un diabète prolongé, des antécédents familiaux de cancer du pancréas ou de cancer qui sont en lien au plan génétique, mais pour beaucoup d'entre eux, c'est-à-dire pour deux tiers d'entre eux, on ne connaît pas la cause. Il y a certainement des facteurs environnementaux sur lesquels on travaille actuellement.
Mais au-delà du diagnostic meilleur qui fait qu'il y a une augmentation du nombre de cas diagnostiqués chaque année, l'autre facteur, est-ce que ça vous interroge
sur
une augmentation aussi forte ?
Mais bien sûr que ça nous interroge. C'est quand même un phénomène qu'on observe dans les pays occidentalisés, c'est-à-dire probablement en lien avec le mode de vie ou les toxiques de l'environnement.
Et donc, il y a des recherches en cours de ce point de vue-là.
Absolument.
Pour savoir pourquoi on a une hausse de ce nombre de cancers. Solène Bénard, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il vous est tombé dessus, ce cancer du pancréas ?
Eh bien, la première fois, il m'est tombé dessus à 33 ans. Tout allait plutôt bien, jusqu'au jour où j'ai ressenti une grosse fatigue, un petit souci d'ordre digestif, et puis un sentiment que quelque chose ne tournait pas rond. Donc j'ai eu la bonne idée à ce moment-là d'aller consulter tout de suite, et puis la chance d'être diagnostiquée très rapidement. puisque j'étais sur Paris et j'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous avec un médecin généraliste qui tout de suite a vu que quelque chose n'allait pas, qui a décroché son téléphone. Et puis dans la journée, j'avais déjà une échographie et une radio. Dans la journée, j'ai eu les résultats dans la semaine, je crois, et j'ai été opérée 10 jours après.
C'est-à-dire que lui a réagi très vite.
Oui, ben je crois que c'est encore une fois
c'est
la chose
la clé,
que j'ai eue. Oui, et puis j'ai eu les symptômes, donc ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis j'étais à l'écoute aussi, je pense, de mon corps. Voilà, et pas hésité à aller consulter tout de suite. Donc voilà, les choses se sont un peu précipitées, mais en 10 jours, j'ai été diagnostiquée et opérée. Voilà comment c'est arrivé la première fois.
On va parler de la suite après. Je voudrais d'abord qu'on accueille Michel, qui nous appelle du département du Puy-de-Dôme. Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, donc moi j'aurais voulu savoir quels étaient les signes avant-coureurs de ce type de cancer. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter et à partir de quand il faut s'inquiéter, quoi.
Merci Michel pour cette question et dans le prolongement du témoignage de Solène aussi, Pascal Hamel.
Alors les signes avant-coureurs, malheureusement, ne sont pas très spécifiques au départ. Parce que quand on a un amaigrissement, quand on a une fatigue, on ne pense pas toujours à ce type de diagnostic. Heureusement que ça n'arrive pas très souvent. Oui. Et puis, par exemple, une diarrhée qui se prolonge alors que la coloscopie était normale, qu'on n'a rien trouvé dans l'intestin, ça peut être lié au pancréas. Déjà, beaucoup plus évocateur, le diabète qui apparaît associé à un des signes digestifs, parce que le diabète est très fréquent en France, il ne faut pas faire peur aux gens qui ont un diabète. Mais quand on a un diabète qui apparaît avec des signes digestifs, là, il faut se poser des questions, effectivement, pour cet organe. Et puis, beaucoup plus spécifique, une jaunisse qui apparaît avec un amaigrissement, tout de suite, on va vers l'imagerie, et là, on trouve fréquemment un cancer du pancréas qui bloque le canal biliaire. Là, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets.
Mais il peut arriver qu'un patient atteint de ce cancer aille voir son médecin généraliste, comme l'a fait Solène, et que de bonne foi, il passe à côté du diagnostic parce qu'il n'y a pas de signe avant-coureur assez fort.
Tout à fait. Il ne faut pas inquiéter toute la population. Je veux dire, si quelqu'un est fatigué et maigri, je pense qu'il faut avoir le bon sens de dire quelque chose ne va pas, comme ça s'est passé pour Solène Bénard. Et pour le reste, je dirais que c'est le médecin traitant qui suit et qui dit il y a quelque chose que je ne comprends pas, cette fatigue, ce diabète qui apparaît, cet amaigrissement. Et l'examen clé, c'est le scanner.
Comment est-ce que vous réagissez, Solène Bénard, quand on vous annonce que vous souffrez d'un cancer du pancréas ?
Encore une fois, ça a été très vite. Alors, quand on m'a dit cancer du pancréas, quand on a un pancréas, on ne sait même pas à quoi il sert. Ce n'est pas un organe auquel on pense.
Oui,
il doit faire une dizaine de centimètres.
Donc,
cancer du pancréas, j'ai évidemment regardé sur Internet, riche idée. Et puis là, on voit les statistiques. J'ai fermé l'ordinateur, j'ai dit OK. Non, je me suis dit tout de suite que j'étais de toute façon dans le circuit des médecins très très rapidement, quasiment la même journée, où je me sentais pas bien. Donc ça a été très vite. C'est pas que j'étais pas inquiète, mais j'étais plutôt confiante. Et puis après, je suis vite rentrée effectivement en contact avec des bons médecins. C'était pas du déni, mais je savais qu'il y avait des choses à faire. Et je savais aussi, parce que je l'avais lu, que j'avais eu de la chance. J'avais un cancer, on va dire, bien placé, qui était opérable. J'ai vite su. J'étais plutôt confiante. Et de toute façon, il fallait y aller.
Et la prise en charge rapide vous rassure à ce moment-là.
Oui, c'est pas quelque chose qui a traîné. J'ai eu des symptômes, effectivement, de jaunisse, de fatigue, d'amaigrissement. Et tout de suite, il y a eu, effectivement, cette prise en charge très rapide. Et je crois que quand on est dedans, après, ça va tellement vite que c'est pas qu'on n'a pas le temps de se poser. Mais de toute façon, chaque jour, un examen, l'opération arrive et c'est quasiment... ça y est, on s'est fait opérer... Donc, j'ai pas eu trop eu le temps de penser, je crois, la première fois.
Malgré les chiffres de mortalité qui sont forts pour ce type de cancer, Pascal Hamel, qu'est-ce que ça change de votre point de vue, du point de vue de l'oncologue, sur l'annonce et sur l'accompagnement du patient par rapport à un autre type de cancer ?
Alors, l'annonce et l'accompagnement restent difficiles parce que les gens sont effectivement avertis de la gravité de ce pronostic. Mais ce que je crois très important dans ce qu'a dit Solène Bénard, c'est que, en tout cas moi en ce qui me concerne, quelqu'un qui demande un rendez-vous, il l'a très vite. Non pas parce qu'il y a une urgence à le soigner comme un infarctus, mais il y a une urgence à expliquer ce qui va se passer, les traitements qu'on va pouvoir faire après le bilan d'extension, parce qu'une petite tumeur qui est opérée, je dirais que c'est une chance entre guillemets, mais c'est le cas seulement dans 10-15% des cas. Le reste du temps, on ne peut pas opérer d'emblée, soit il faut faire un traitement préparatoire, chimiothérapie, en particulier particulier, soit elle n'est définitivement non opérable parce qu'il y a déjà des métastases un peu diffuses et que c'est plus difficile.
On va revenir sur les traitements, mais vous venez de nous dire, moi, on peut avoir avec moi un rendez-vous très vite. Ça veut dire quoi? C'est déjà des patients que vous suivez qui peuvent revenir vous voir?
Non.
Parce que vos journées font que 24 heures.
Alors, je ne vais pas donner le secret de fabrique, mais disons que depuis quelques années, j'ai dédié une demi-journée dans laquelle je ne cale aucun rendez-vous. Et je ne prends que les urgences de la semaine précédente. C'est-à-dire que j'ai 2-3 urgences par semaine de ce type où les gens appellent, ou les amis ou les collègues appellent en disant « Est-ce que tu as une place pour ?» Et là, je les vois. Parce que je pense qu'il y a une urgence psychologique très importante au-delà de l'urgence physique, si vous me passez l'expression, qui est que les gens sont désemparés et qu'il faut tout de suite les mettre dans des rails. Et souvent, je crois qu'ils sortent soulagés de la première consultation.
Donc suivi psychologique plus important que pour d'autres...
Alors psychologique, je ne suis pas psychologue, mais je crois que l'aspect psychologique, effectivement, vous avez raison d'en parler, c'est très important parce que les gens arrivent avec l'idée de mort quasi inéluctable et que fort heureusement, on peut discuter de cela très vite.
Question de Simon, donc pour rentrer un peu dans le détail, une fois diagnostiqué, quels sont les traitements et le taux de guérison?
Alors, les traitements, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la chirurgie réservée à un petit nombre de patients bien sélectionnés. On peut augmenter ce nombre de patients opérés grâce aux traitements préparatoires par chimiothérapie qui peuvent faire diminuer des tumeurs qui sont un peu limites, comme on appelle borderline. Et puis, tous les autres traitements dehors de la chimiothérapie, c'est les soins de support qui sont essentiels. Il faut traiter une douleur, il faut traiter une détresse psychologique, une dénutrition qui est quasiment constante et faire de l'activité physique à nos patients.
Question de Stéphanie. Ma maman a été diagnostiquée d'un cancer du pancréas en septembre dernier. Elle a pu être opérée. Elle est actuellement en rémission. Elle a eu une vie très saine, sans excès. Et pourtant, la maladie est arrivée. À ce jour, ma question est de savoir si ces rechutes sont fréquentes. Est-ce que c'est ce qui vous est arrivé, Solène Bénard?
Oui, alors moi, ça m'est arrivé 6 ans plus tard.
6 ans plus tard.
Donc, c'était quasiment un nouveau cancer.
C'est un nouveau cancer.
C'est pas une rechute, c'est un nouveau cancer.
Non, voilà, c'est un nouveau cancer sur la partie du pancréas qui restait. Donc, effectivement, au bout de 6 ans, je pensais plutôt être sortie d'affaire. Et puis, ce n'était pas le cas. Il restait effectivement la queue du pancréas sur lequel il y a de nouveau eu une tumeur. Donc là, les choses entre-temps avaient changé puisque 6 ans étaient passés. Donc là, on n'a pas commencé par opérer, mais on a commencé par une chimiothérapie, des rayons, et ensuite, on a pu, encore une fois, opérer.
Les 2 fois avec le professeur Hamel?
Oui, alors le professeur Hamel me suit depuis le début de l'aventure.
Voilà. Vous appelez ça l'aventure, vous?
Oui, parce que c'est 10 ans de ma vie maintenant, ça fait partie de ma vie. Je suis soutenue et accompagnée, notamment par le professeur Hamel et par d'autres médecins. Mais
6 ans après, est-ce que vous accompagnez l'annonce de la maladie comme la première fois? Est-ce que c'est plus dur? Est-ce que c'est plus simple?
Non, je dirais que c'est plus dur. De toute façon, j'avais toujours dit, si jamais j'ai un jour un deuxième cancer, je pense que ça sera plus compliqué parce que je connais les statistiques.
Vous dites si un jour j'ai un deuxième cancer?
Oui, parce que je pense que quand on en a eu un, je ne sais pas si on est vraiment serein après, ça reste quand même toujours dans un coin de la tête. Et puis, bon, se sortir d'un cancer du pancréas, on se dit c'est bien, 2 fois, bon. Donc forcément un peu plus inquiète, mais avec effectivement la chance de savoir que c'était de nouveau opérable. Et puis non, malgré tout, assez confiante. Et puis c'est passé une deuxième fois avec une bonne chimiothérapie, des rayons, une opération, d'être bien accompagnée, du sport, une bonne hygiène de vie, et on en guérit.
Pascal Hamel, je reviens à la question de Stéphanie. Est-ce que les risques de rechute sont fréquents?
Oui, et ça c'est difficile à expliquer aux patients qu'on va opérer parce que tout le monde sait et pense à juste titre que c'est la manière de guérir du cancer du pancréas. Si on n'opère pas, on ne peut pas enlever cette tumeur en général avec les traitements médicaux. Mais quand on opère, les risques de récidive sont très importants. Il y a 20 ans, c'était 80%. Actuellement, on diminue ces risques en faisant, après l'opération, une chimiothérapie qui détruit les petites cellules en micro-foyers qu'on ne voit pas. Et là, on augmente les chances de survie. Et on a maintenant beaucoup plus de patients survivants à 5 ans. Enfin, beaucoup plus dans ce petit groupe de patients qui peuvent être opérés.
Et ce risque-là, il est plus fort sur ce cancer du pancréas que sur d'autres cancers?
Le risque de récidive, oui.
Pourquoi?
Parce que c'est intrinsèquement une tumeur qui a une agressivité et il faut très peu de cellules pour que ça repousse. On ne voit pas ça dans un petit cancer du côlon, par exemple, qui peut être guéri par une opération, et même sans chimiothérapie, s'il est tout petit.
Alors, la prise en charge très importante, vous nous l'avez dit, Solène Bénard, je vois mon généraliste, il m'oriente très rapidement vers un spécialiste. Je suis opéré sous combien de jours, vous
nous dites? Quasiment 10 jours.
Ça pose la question de la prise en charge. Et tous les Français ne sont pas égaux selon l'endroit où ils habitent, Pascal Hamel?
Alors ça, c'est un vrai problème du maillage territorial. Ce que je peux simplement dire, je pense que même si on est dans une région un peu plus désertique, entre guillemets, au plan médical, si on a une jaunisse, c'est-à-dire un ictère, comme on dit en termes médical, et si les médecins réagissent vite, même si on est à 100 km d'un CHU, je pense qu'on a une, ou d'une grande clinique, il n'y a pas que le CHU, ou d'un hôpital dans le coin, on peut avoir cette chance d'être opéré. Mais si on a le signal, parce qu'après, effectivement, dans une région moins favorisée, s'il faut du temps pour avoir un scanner, du temps pour avoir un spécialiste, etc., si on perd 3 semaines, un mois et demi, chaque semaine, le risque d'inopérabilité augmente.
Ça, c'est un combat que vous menez aussi, qu'il y ait davantage d'équipements partout en France.
Alors, davantage d'équipements, je serais bien prétentieux de dire ça, mais on
et
a rencontré
les sénateurs. Est-ce que le concert de ce soir à l'Olympia est aussi l'occasion de récolter des fonds de ce point de vue-là ?
Alors, vous savez, le concert à l'Olympia ne permettra pas de régler le problème du maillage territorial ni d'avoir des nouveaux appareils de scanner. Mais par contre, permettra, je pense, de faire connaître mieux cette maladie dont on craignait beaucoup parler, et on vous remercie de nous en donner l'occasion. Faire connaître cette maladie, c'est aussi, comme on l'a fait, rencontrer les sénateurs, leur expliquer ce qui se passe chacun dans leur territoire, parce que les gens n'aiment pas que leur territoire soit désertique. Et c'est très important qu'ils en prennent conscience.
Vous avez employé le mot de survivant pour qualifier tous ceux qui ont réussi à franchir ces obstacles. 2 cancers du pancréas et 1 cancer du poumon pour vous aussi, Solène Bénard. Quel message vous donneriez à des gens qui viennent d'apprendre ou des proches de personnes qui sont atteintes de ce type de cancer et qui voient face à eux peut-être le gouffre ?
Écoutez, si je suis là aujourd'hui, si j'ai accepté d'accompagner le professeur Hamel, c'est justement pour montrer que c'est possible, qu'il faut garder confiance, qu'effectivement ça évolue, qu'il y a des traitements qui ne sont pas faciles à supporter, mais comme une chimiothérapie dans d'autres cancers, mais que c'est possible. Faut faire confiance, faut se faire confiance, être bien accompagné, avoir des projets, comme je vous disais, continuer de faire du sport, de bien manger. Et c'est sûr que c'est des traitements qu'il faut encaisser, mais c'est possible. Donc, ne pas regarder Internet et les statistiques qui font évidemment très peur. Il faut garder confiance.
Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ce cancer et des moyens, des possibilités pour le combattre. Professeur Pascal Hamel, merci également à Solène Bénard. Et donc ce concert ce soir à l'Olympia au profit de la Fondation de l'aide et recherche en cancérologie digestive. 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie. Nous suivons cette semaine l'itinéraire d'un manuscrit, un texte envoyé par des écrivains, apprentis ou confirmés, à une maison d'édition, dans l'espoir bien sûr d'être publié. Nous partons de la réception du texte jusqu'à la promotion du livre et ça se passe aux éditions Christian Bourgois à Paris, édition qui publie notamment la prix Nobel de littérature Toni Morrison. Aujourd'hui, avec Ilana Moryoussef, nous commençons par le service des manuscrits où un lecteur professionnel fait le premier tri.
Ah, c'est un vieil immeuble et on m'a dit d'aller au 5e et demi. Donc il faut monter au 6e et redescendre à un demi-étage. On est au 6e. Hop. Ah voilà, je suis devant la porte, édition Christian Bourgois. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Amélie.
Bonjour.
Bonjour Amélie.
Comment allez-vous ?
Alors, je vais vous faire un petit tour des équipes. Voilà le bureau d'Henri Marcel.
Bonjour, vous permettez que je m'assoie ?
Bien sûr.
Donc, je suis Henri Marcel et je m'occupe du service des manuscrits de Christian Bourgois, éditeur. C'est-à-dire que beaucoup de gens envoient des manuscrits tous les jours, en gros. Et donc, il s'agit de faire une première lecture du manuscrit. Précédemment, on ne recevait que des manuscrits papier, ce qui fait qu'il y avait une grosse gestion, comme vous voyez sur la table, il y a plein de manuscrits. Et nous sommes passés au numérique assez récemment, ce qui fait que de plus en plus, je fais ça depuis mon domicile.
Vous en recevez combien par semaine ?
Eh bien, ça ne cesse d'augmenter, à peu près 50 par semaine. Ça fait un gros volume de travail. Honnêtement, on ne lit pas tout, chaque texte jusqu'à la dernière page. C'est pour ça qu'on arrive à faire un tri dans les textes relativement rapidement avec l'expérience. Ce que je fais la plupart du temps, c'est une note. Quand les éditeurs reçoivent un de mes mails et je marque « manuscrit à signaler », tout d'un coup, il y a un petit signal rouge et on sait qu'il faut agir vite. Et donc, il y a une sorte d'excitation qui monte parce qu'on se dit on peut faire émerger comme ça des magnifiques œuvres. La boîte mail pour Bourgois, Vous voyez, c'est banal, hein, c'est une boîte normale. Par contre, de manière anecdotique, ce que vous pouvez voir, nous avons un tableau général sur un drive, et chaque lecteur, puisqu'il y a plusieurs lecteurs et lectrices, fait un micro, vous voyez à droite, là, il y a un micro rapport de lecture, qui est un peu un rapport de lecture à minima. Par contre, ce dont je vous avais parlé tout à l'heure, là où je signale le manuscrit dans l'urgence, on fait des comptes rendus de lecture, vous voyez, là, vous avez ça devant les yeux, pour convaincre l'éditeur, pour dire, ça, je pense qu'il faut vraiment que tu le lises en urgence. Donc là, par exemple, j'avais écrit au sujet d'une autrice dont le texte m'avait extrêmement frappé, parce qu'elle parlait d'une histoire traumatique, qui apparemment était personnelle, mais d'une manière distancée et d'une intelligence rare, vraiment. Donc là, j'avais écrit dans l'ardeur de mon enthousiasme. La qualité du texte tient d'une part au regard analytique, souvent de type sociologique, que pose le personnage sur son cadre de vie, et d'autre part, à la manière dont l'autrice sonde les affects, dissèque les expressions toutes faites, les faux-semblants, à la recherche d'un langage plus vrai. On trouve dans ce texte beaucoup de belles choses, de l'émotion, une sensibilité et une intelligence particulière. L'autrice me semble déjà une écrivaine assez douée, etc. etc. Et il y a des réserves, je disais qu'elle avait parfois tendance à surécrire dans un style qui devrait être sans doute simplifié, assoupli. C'est un peu comme si on ouvrait une bouteille de vin, on finit par avoir une sorte de capteur. Dès la première page, on sent qu'il se passe quelque chose, et parfois un sujet vous prend à la gorge, où on sent les parfums qui apparaissent comme ça. Puisque c'est vraiment ça, c'est vraiment l'amour de la littérature.
Notre feuilleton signé Ilana Moriousseff cette semaine, réalisation Stéphane Ronxin.
France Inter, le 13-14.
C'est la France à 13h50, tous les lundis, l'histoire d'un lieu dans l'actualité avec Thomas Snegaroff. Thomas, direction le sud de la France aujourd'hui, sud-ouest et sud-est, puisqu'il y existe de nombreuses traditions religieuses liées à la pluie. Ainsi, hier à Perpignan, une grande procession a été organisée pour le retour de la pluie.
Faites qu'il pleuve. Mon Dieu, faites qu'il pleuve.
Mon Dieu, faites qu'il pleuve. Vous avez reconnu sûrement Jean de Florette. Mmh. Les Perpignanais se tournent eux aussi vers les cieux pour demander qu'il pleuve. Pour l'instant, les fruits de cette procession se font attendre. Toujours pas de pluie à Perpignan et sa région, et pas de pluie annoncée toute la semaine. Saint Godéric est-il resté sourd? Parce que c'est ce saint que l'on a prié hier à Perpignan. Pourquoi lui? Parce qu'au Xe siècle, au moment où Saint Godéric est canonisé, une procession est organisée. Et alors que le territoire est soumis déjà à une terrible sécheresse, soudainement, miraculeusement plutôt, une source d'eau jaillit sous la châsse contenant les reliques du saint. Ici, c'est Saint Godéric, mais en 1976, en Mayenne, au moment de la grande sécheresse, c'est Saint Siméon, saint protecteur du bétail, qui est prié.
Saint Siméon, obtenez-nous la pluie si nécessaire à notre âme.
Cette sécheresse est en effet dramatique pour les éleveurs. Bientôt, ils ne pourront plus nourrir leur bétail, et déjà leurs vaches donnent moitié moins de lait, et pour certains, le seul recours est l'abattage.
Alors, des rites météorologiques dans plusieurs régions, on l'entend, ici chrétiens, et ils sont en réalité bien plus anciens.
Oui, lors des périodes de sécheresse, les anciens en appelaient à leurs pierres manales, des pierres dont la fonction est d'apporter la pluie à l'issue d'une cérémonie religieuse. La pierre manale pouvait être laissée sur place, mais parfois de forme cylindrique, on la faisait rouler, d'autres fois on l'aspergeait d'une eau magique, ou encore on pouvait la fouetter, tout ça pour obtenir de la pluie. Ça vous surprendra pas, on en trouvait beaucoup de ces pierres manales dans les régions pyrénéennes, comme quoi ça fait des centaines et des centaines d'années qu'on en appelle au Dieu ou à Dieu pour qu'il pleuve. Notez Jérôme qu'il y a aussi des rites pour qu'il cesse de pleuvoir lors des inondations, et ça résonne dans l'actualité d'aujourd'hui. Dans le sud-ouest aussi, on mettait la pierre debout pour qu'il pleuve, on l'a couchée pour qu'il cesse de pleuvoir, un peu comme un interrupteur, on allume, on éteint. Notez Jérôme qu'au Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, les croyances religieuses se mêlent et les processions pour la pluie peuvent intégrer une pierre manale qui est donc antérieure au christianisme.
En fait, cette longue histoire révèle notre impuissance face à la pluie.
Oui, et d'ailleurs, dans les périodes les plus récentes, les demandes de prière pour qu'il pleuve ne viennent pas de l'Église qui voit parfois une forme de superstition. Mmh. Non, ça vient des citoyens, souvent agriculteurs, qui se désespèrent de regarder le ciel et qui demandent au curé d'organiser une prière, mais attention à lire l'archevêque de Lyon en 1762. Si malgré une procession, il ne pleut toujours pas, c'est en raison de nos péchés. Dieu nous punit par son indifférence à nos malheurs. Alors attention, prier pour demander la pluie peut se révéler dangereux. Et pour info, il ne pleut toujours pas à Perpignan.
Merci Thomas Négaroff. Elle est originaire du département voisin, département de l'Aude, de C'est la France. À notre carte blanche cette semaine, assurée par la chanteuse Olivia Ruiz, également romancière, qui mêle ici ses deux passions. Elle va nous présenter jusqu'à vendredi des romans et les chansons qui pourraient en être la bande originale. Bonjour Olivia.
Bonjour à tous. Je suis très émue aujourd'hui parce que je vais vous parler d'Annie Ernaux, qu'on ne présente plus. Autrice de cette phrase devenue le symbole du transfuge de classe, j'ai eu honte d'avoir eu honte de mes parents. Elle est l'une des rares femmes prix Nobel, l'une des rares autrices dont la vie et la littérature se sont embrassées au cours d'une existence tout entière. Dans Se perdre, un extrait de son journal publié plus d'une décennie après l'avoir écrit, nous pénétrons au sein d'une passion amoureuse qu'elle entretiendra avec un diplomate russe durant plusieurs mois, voire années. Annie Ernaux décrit l'attente comme personne. Et ici, nous vivons chaque seconde de cet amour avec elle, sa peur, ses incertitudes, son désir ardent, comme dans cet extrait. Annie Ernaux, Se perdre. Samedi 19. Je me pose vraiment la question. Faut-il continuer de vivre ainsi, dans l'attente et le déchirement, l'anesthésie et le désir, alternativement ? C'est l'enfer adorable, mais enfer tout de même. Dimanche 20. Téléphone hier soir, à 7h30. Et aussitôt, tout se retourne, comme d'habitude, sorte de tranquillité, bonheur, étale. Puis dans l'attente du prochain rendez-vous, le désir, les gestes prévus. Naturellement, très peu envie de travailler. Texte sur la Révolution. Mardi 22. Ce soir, soirée chez Irène. Il y sera avec sa femme. Épreuve. Surtout parce que nous ne pourrons pas nous voir seuls ensuite. De tels obstacles renforcent le désir. C'est là le seul charme que je puisse leur trouver. Soir. Dur, en effet. Plusieurs fois, S me regarde avec intensité. Alors brusquement, je décide de parler à sa femme. Nous avons conversé longtemps ensemble. S, elle, d'autres. Jouer les sympas, les salopes en fait. D'où ma tristesse. Elle avait une jupe longue, informe, des bas chers. Moi, une jupe très courte, des bas noirs. On ne pouvait pas imaginer femme plus opposée par la taille, la couleur des cheveux et des yeux, le corps. Elle est un peu boulotte. Les vêtements. La maman. Et la putain. Et s'il n'y a pas de recette pour fabriquer un amour fou, comme le prétend Serge Gainsbourg dans l'extrait que nous allons vous interpréter, avec mon guitariste Vincent David, il y en a bien une incarnation dans ce journal « Se perdre » d'Annie Ernaux. Dans un boudoir, introduisez un cœur bien tendre. Sur canapé, laissez s'asseoir et se détendre. Versez une larme de Bordeaux et puis mettez-vous au piano, jouez Chopin. Avec dédain, égrenez vos accords et s'il s'endort, alors lâchez-le dehors. Le second soir, faites revenir ce cœur bien tendre. Faites mijoter trois bons quarts d'heure à vous attendre. Et s'il n'est pas encore parti, soyez-en sûr, c'est qu'il est cuit sans vous trahir. Laissez frémir. Faites attendre encore et s'il s'endort, alors là, jetez-le dehors. Le lendemain, il ne tient qu'à vous d'être tendre. Tamisez toutes les lumières et sans attendre. jouer la farce du grand amour. Dites jamais, dites toujours et consommez sur canapé. Mais après les transports, Acide s'endort, alors la foutre et le dehors.
Merci Olivia Ruiz et à demain pour une nouvelle carte blanche.